thématique de l'Église. Actes chapitre 2, j'ai marqué verset 42, on peut même prendre au verset 41. Actes 2, 41, c'est juste après la Pentecôte, après la prédication de l'apôtre Pierre. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et là, tout de suite, alors que l'Église est en train de se constituer, tout de suite, le verset 42 met en évidence, c'est ce que nous regardons pour l'instant ces dimanches, nous regardons les piliers, les fondamentaux qui assurent la solidité de l'Église, sa solidité, sa force, sa vie, sa pérennité. Ce sont des piliers qui soutiennent l'édifice, ce sont des fondements. Il y en a quatre dans le verset 42. Ils persévéraient, un, dans l'enseignement des apôtres, ce qui nous ramène directement à l'autorité de la parole, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Deux, dans la communion fraternelle, on va en parler ce matin, et puis pour les dimanches qui viennent, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Vous pouvez garder vos Bibles ouvertes parce que dans quelques instants, on lira au chapitre 20 à partir du verset 7, mais on va le lire dans quelques instants. Ce qui est important, là, ici, ce que je n'avais pas dit la semaine dernière au sujet des disciples de l'Église primitive, dans ce « ils persévéraient », dans l'original, il ne s'agit pas seulement de constance. La persévérance, c'est vrai, c'est de l'assiduité, de la constance. J'ai mis aussi, oui, c'est ça, de la régularité. Mais ce n'est pas seulement le fait d'assister de façon régulière à des réunions d'église. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque dans la pensée, l'original nous parle vraiment de dévouement. C'est vraiment être appliqué, être dévoué, accordé dans persévérer, il y a la notion de soin, accorder un soin particulier, il y a vraiment un investissement. C'est un investissement de cœur, c'est réellement une qualité d'engagement. Et on va voir tout à l'heure l'exemple d'un homme qui malheureusement était présent de corps, mais pas présent de cœur. Et en fait, il était là, mais c'est comme s'il n'était pas là, et on va voir ce qui s'est passé. Mais c'est très important de souligner ça dans l'original, la notion dans cette communion fraternelle, autant dans l'autorité de la parole, ma communion avec la parole de Dieu, mais dans la communion avec les frères et les sœurs, il ne s'agit pas seulement de fréquentation, de réunion, je me fais bien comprendre, il s'agit aussi d'investissement personnel, d'investissement de cœur, il s'agit d'une qualité d'engagement. Chaque membre, il faut le comprendre, les membres que nous sommes, chaque membre a besoin. Il y a un double besoin. Chaque membre a besoin d'une communion de qualité avec Dieu, mais aussi d'une communion de qualité avec les frères et sœurs, une communion de qualité avec l'Église qui est son corps. Il y a avec Dieu, c'est la réalité de la croix, il y a la relation verticale. J'ai besoin d'avoir une communion personnelle et intime avec Dieu. Et puis, il y a la relation horizontale, parce que c'est clair dans la parole, Dieu a voulu la communion fraternelle. Et il faut absolument les deux. Et privilégier l'un au détriment de l'autre, eh ben, nécessairement, ça crée du déséquilibre. Et ce n'est absolument pas la pensée, la volonté de Dieu. Il y a des gens qui, pardon, c'est pas méchant, mais se contentent d'aller à l'église. Il y a des gens, ils se contentent de fréquenter des réunions, d'écouter de bonnes prédications, d'entendre des messages, de fréquenter des réunions, de fréquenter des chrétiens. Et il faut, c'est compliqué, mais il faut que le Seigneur y fasse tout. Il faut que le prédicateur y fasse tout et il faut que l'église, elle fasse tout dans le temps imparti de la réunion. Il faut parler, il faut consoler, il faut relever, il faut réussir à reprendre, il faut encourager, il faut booster celui qui est découragé, il faut encourager celui qui est affligé, il faut, etc. etc. Je ne peux pas, vous, moi, on ne peut pas tout faire, tout recevoir, tout construire sur le temps d'une réunion. J'ai besoin, de la même façon, je vais vous donner une image stupide, hein, mais tellement logique, hein, de la même façon que vous ne mangez pas que le mardi soir et le dimanche matin, vous mangez chaque jour deux fois, trois fois, une fois, selon votre équilibre, votre rythme, ça chacun est différent, il n'y a pas de souci. Mais à peu de choses près, dans un équilibre de vie, on mange, on ne fait pas des gueuletons tous les jours, excusez-moi l'expression, mais on mange de façon régulière et équilibrée chaque jour. La Bible étant la nourriture de mon âme, la relation avec Dieu assurant ma qualité de vie, je dois construire, je dois entretenir cette alimentation spirituelle saine. Alors oui, l'Église est une bénédiction logiquement, mais la piété personnelle avec Dieu est indispensable. Et je ne peux pas avoir l'un au détriment de l'autre. La parole de Dieu, la communion du Saint-Esprit sont la nourriture de mon âme, sont la vie de mon âme. Et j'ai besoin, parce que c'est aussi l'image du corps, souvenez-vous de ce qu'on avait partagé il y a quelques dimanches, quelques semaines, c'est aussi l'image du corps. Chaque membre, pris individuellement dans le corps, chaque membre a une terminaison nerveuse, a une relation directe avec la tête. C'est ce qui fait que je peux bouger mon coude sans que le reste de mon corps ne bouge. Parce qu'il y a une relation directe de ce membre avec la tête. Et chaque membre du corps spirituel qu'est l'Église est censé avoir une bonne relation, une bonne communion, une bonne terminaison, une bonne connexion nerveuse avec Christ, qui est la tête, déclare l'apôtre Paul. Alors, évidemment, il y a énormément de bienfaits logiquement dans l'Église, mais il doit y avoir d'énormes bienfaits dans ma communion personnelle avec Dieu. Et avoir une communion, une intimité, une relation de qualité avec Dieu, une bonne connaissance personnelle de Dieu, c'est extrêmement important. C'est une sécurité. Et oui, c'est une sécurité contre les dérives. Parce que quand vous avez des gars qui commencent à monter sur des plateformes et puis qui, il vaudrait mieux, pour ne pas se laisser embarquer, il vaudrait mieux avoir une connaissance solide de la parole et de l'écriture. C'est ce que faisaient les chrétiens de Bérée, vous relisez Actes 17. Je vous l'ai dit, de toute façon, tout est dans l'Église primitive. Le modèle d'Église, c'est l'Église primitive. Acte 17, les chrétiens de Bérée avaient des sentiments nettement plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Si vous avez envie, les PowerPoints sont à votre disposition, les enregistrements. Si vous voulez que je vous envoie mes notes, toutes mes notes, je vous donne tout, je vous envoie tout. Si vous voulez éplucher tout ce que je dis, tout ce que je... Mais faites-le, au contraire, c'est très bien. Nous ne devons pas, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous ne devons pas être naïfs. Nous vérifions, nous examinons, nous plongeons, nous sondons les Écritures et nous avons cette part de responsabilité, c'est une sécurité. Quand les membres de l'Église ont une bonne communion personnelle avec leur Seigneur et une bonne connaissance des Écritures. Et c'est indispensable. Je ne peux pas me contenter que de la vie de l'Église. Et puis, à contrario, vous avez aussi des gens, eux, ils ont leur communion avec Dieu. Donc, l'Église, c'est quand je n'ai rien d'autre à faire, c'est si je n'ai pas mal aux pieds, si je ne suis pas contrarié, si on ne m'a pas regardé de travers la semaine dernière, si et si et si. Ceux qui se contentent d'une communion avec Dieu, enfin... Ça m'a toujours laissé dubitatif, les gens qui disent « Ouais, mais vous inquiétez pas, je suis en communion avec Dieu à la maison. »« Ouais, mais vous savez, à la maison, je prie. » Si tu as une si bonne communion avec le Seigneur et sa parole, comment se fait-il que tu n'as pas vu la centaine de références dans le Nouveau Testament qui font directement référence à l'Église locale ? Et que le Seigneur veut que ses disciples soient rassemblés en un corps, que les brebis doivent être en troupeau, que les pierres vivantes fassent un édifice, etc., etc. Alors très souvent, on dit « Ah oui, mais moi, vous inquiétez pas, à la maison, j'ai ce qu'il faut. » Je ne soupçonne pas le mal, mais permettez-moi d'en douter quand même. Quand on me dit ça, ça me fait toujours un peu peur, sans méchanceté. J'ai bien du mal à y croire, parce que je connais la volonté de Dieu et je sais ce qu'il veut. Le corps, chaque membre, oui, a une relation, une terminaison nerveuse directement avec la tête, mais les membres ont aussi une communion et sont en relation, en connexion les uns avec les autres. C'est pour ça que lorsque la porte de la voiture se ferme sur mon petit doigt, tout mon corps est en alerte, que mon cœur bat la chamade et qu'il pompe pour essayer de régler le truc, et que mon corps est carrément allongé, et que je suis là et je me demande si je ne vais pas mourir. Pourtant, ce n'est pas grand-chose, c'est juste le petit doigt qui a été coincé dans une porte. Mais c'est tout le corps qui est anéanti. Parce que c'est inévitable, il y a des connexions entre les membres de mon corps et Dieu a voulu que chaque membre ait des connexions les uns avec les autres. Ça aussi, c'est une sécurité. Si les gens qui négligent leur communion avec Dieu doivent en construire, en entretenir une bonne, c'est une sécurité pour ne pas qu'un jour ils se laissent entraîner par des farfelus ou par des communautés farfelues. Il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que pour des gens qui se contentent seulement de leur communion avec Dieu, maintenant ils ont aussi besoin qu'une église, dans la bienveillance, qu'un pasteur, avec amour, puisse apporter une nourriture équilibrée. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, chez nous, quand on lit, on aime bien lire plus ou moins les mêmes choses. Et on se nourrit toujours plus ou moins des mêmes choses. Et puis c'est tellement facile. Ben oui, parce qu'on aime bien les versets Nutella, parce que c'est tout doux, parce que ça nous fait du bien. Puis un jour, il y a un pasteur qui dit « Oh, c'est bien le Nutella, mais maintenant on va commencer à mettre des légumes, on va vous mettre du steak dans l'assiette, on va vous constituer une nourriture équilibrée et vous ne vivrez pas seulement avec des petites douceurs ou des messages, toujours de l'exhortation, toujours de la consolation, toujours, il en faut, toujours de la restauration, il en faut. Oui, mais j'ai fait 6 mois de messages de restauration, vous regardez à peu de choses près, je suis en train de faire 6 mois de messages de responsabilisation parce que c'est tout l'équilibre de la parole de Dieu, et il le faut absolument. Donc, c'est pour ça que le Seigneur veut l'Église, parce que dans l'Église, j'ai des frères et sœurs, dans l'Église, il y a des ministères, dans l'Église, il y a des anciens qui sont matures et qui sont bienveillants pour paître le troupeau, etc., etc. Et tout ce petit monde, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, depuis 5 mois que je prêche l'Église, je pense, j'ai peut-être oublié de vous dire, hein, excusez-moi, tout ce petit monde, c'est un secret, mais ne le répétez pas, hein. Tout ce petit monde est imparfait. Pardon, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Tout le monde est imparfait, eh oui. Mais le Seigneur l'a voulu quand même, parce que l'Église, c'est sa pédagogie. La communion fraternelle, je passe rapidement là-dessus. C'est l'acte 20 qui m'intéresse plus ce matin. Vous le savez, c'est une bénédiction, je ne fais qu'enfoncer le clou. Psaume 133, je ne vous le fais pas lire. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est comme la rosée de l'Hermon, c'est comme l'huile précieuse, ce sont les bienfaits de la communion avec Dieu, les uns avec les autres. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et s'il y a une dimension de bénédiction, amen, quand je suis seul avec le Seigneur, parce qu'il peut me bénir partout, Dieu veut, pourvu que j'ai la disposition de cœur qui convienne, pourvu que j'ai la disposition de cœur qui convienne, pourvu que j'ai la disposition de cœur qui convienne, Dieu veut me donner une bénédiction différente. Il y a quelque chose dans la communion fraternelle. C'est son plan, c'est sa volonté. Je veux juste dire quelque chose avant qu'on lise acte 20. Très souvent, dans les églises, quand il y a eu un petit peu des difficultés, parce qu'il y en a régulièrement, il y en a eu, il y en aura, oui. On entend souvent, oui, bon, ben, de toute façon, j'y vais quand même. De toute façon, si tu viens à l'église, tu viens pour le Seigneur, c'est ça. Ah oui, 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 moi, si je viens à l'église, je viens pour le Seigneur. Non, je suis désolé, c'est faux. Non, je suis désolé. Moi, ce matin, ici, je ne suis pas venu pour Dieu. Non, parce qu'il est dans mon cœur, parce que je pourrais être en train de prier dans la forêt, parce que je pourrais lire ma Bible chez moi, parce que le Saint-Esprit, il est en moi partout. Non, je ne suis pas venu pour Dieu parce qu'il est partout, il n'est pas ici seulement, il est partout et surtout il est en moi, il est en vous. Donc vous pouviez vous faire un super petit culte chez vous à la maison, avec votre femme et vos enfants ou tout seul. Vous n'êtes pas venu ici pour Dieu, il est partout. Pourquoi vous êtes venu ici? Ben vous êtes venu pour vos frères et sœurs, parce que c'est la sainte convocation où Dieu nous appelle à nous rassembler. Alors quand je viens, ben non justement je ne dis pas, bon il y aura peut-être lui, ah il y aura peut-être elle. Bon, c'est pas grave, hein, chérie, de toute façon, on y va pour le Seigneur. Ben non, c'est faux et ça règle rien parce que tu viens pas pour le Seigneur. C'est faux, c'est pas ce qu'il te demande. Il te dit, viens pour ton frère et ta sœur. Viens pour celui qui est compliqué. Viens pour celle qui est difficile. Viens pour celui avec qui... Tu viens aussi pour eux parce que tu veux être une bénédiction. Et vous savez, mes bien-aimés, Si on avait vraiment cette optique, cette vision, je sais que ça met du temps, mais ça se construit dans les cœurs, merci Seigneur. Si on avait vraiment cette vision de se dire, quand je viens dans un rassemblement de l'Église, le mardi, le dimanche, une autre réunion, quelle que soit la forme de rassemblement, de réunion, peu importe, je viens pour mes frères et sœurs, je veux, Seigneur, permets-moi d'une façon ou d'une autre, je veux être une bénédiction pour eux. Ben, je vous garantis qu'on serait beaucoup plus bénis. Parce qu'il y a la double bénédiction. Si je viens pour être en bénédiction, c'est obligé, je vais forcément repartir béni. Et inversement, c'est la bénédiction à double sens. Et nos réunions s'appauvrissent, les églises de façon générale s'appauvrissent à partir du moment où les membres commencent à vivre l'église de façon individualiste, égocentrique. Est-ce que les chants m'ont plu ce matin ou pas ? Eh bien, excusez-moi, ça vous a plu, ça vous a pas plu, pardon, j'en ai rien à faire. Est-ce que le prédicateur, est-ce que le frère machin, est-ce que... Non, pardonnez-moi, est-ce que le culte que tu as rendu à Dieu lui a été agréable ? C'est ça la vraie question. Est-ce que ce matin, tu es une bénédiction pour tes frères ou tes sœurs ? Ou est-ce que si tu n'étais pas venu, c'était pareil ? Est-ce que tu nous enrichis de ton amour ? Est-ce que tu nous enrichis de ta joie ? Est-ce que tu apportes une dimension de paix ? Est-ce que tu apportes de l'amour ? Est-ce que tu apportes de la patience ? Est-ce que tu nous enrichis de ta louange et de tes actions de grâce ? Qu'est-ce que tu veux amener dans l'Église pour bénir tes frères et tes sœurs ? Vous savez, l'Église, c'est un peu, pardonnez-moi pour l'image, hein, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. C'est un peu comme l'auberge espagnole. Vous connaissez le principe de l'auberge espagnole ? C'est une agape géante. Dans l'auberge espagnole, il y a juste ce que vous avez amené. C'est comme à une agape, si vous amenez beaucoup, ben, il y aura beaucoup pour tout le monde, et tout le monde sera béni, et on en remportera même encore à la maison, des paniers pleins, amen. Et si vous amenez pas beaucoup, si c'est chiche, mais là on parle du cœur, on parle de choses spirituelles, si on arrive en pensant à soi, et si c'est chiche, ah ben forcément tout le monde va repartir, on n'aura pas forcément très très bien mangé, mais on va dire que c'est de la faute du gars qui a fait chanter, ou le gars de la faute de celui qui a joué du piano, parce qu'il aurait quand même pu être d'un niveau supérieur, et puis c'est la faute du pasteur, et puis il fallait... Non, on ne peut pas tout gérer, tout machin. Et quand j'ai compris que je veux absolument être une bénédiction, je viens pour être une bénédiction pour mes frères et sœurs. C'est là que ma communion avec Dieu dans l'intimité, dans la semaine, trouve tout son sens, parce que c'est là que j'ai fait le plein. Là, j'ai fait le plein d'amour, là, j'ai fait le plein de douceur, là, j'ai fait le plein de compassion, là, j'ai fait le plein de tout, de toute la vie d'esprit en moi. Et je fais le plein et quand je viens, je déverse. La semaine, excusez-moi de le dire ainsi, la semaine, je fais mes courses et le dimanche, à l'agape, j'amène en abondance. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ça va ? Amen. Allez, on va lire acte 20. Parce que il y avait quand même un brave gars qui s'appelait Eutychus et qui se croyait plus malin que tout le monde. Parce que lui, Eutychus se disait, oui, mais enfin, je suis là quand même, je suis venu à la réunion. Ah oui, tu es venu à la réunion, Eutychus. Eh bien, on va en parler d'Eutychus. Acte 20. Et là, on prend à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Acte chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Moi, rassurez-vous, dans 20 minutes, j'ai fini. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla encore longtemps jusqu'au jour. Il a prêché toute la nuit. Si un jour il y a un pasteur qui fait ça, à mon avis, c'est fini pour lui, quoi. C'est son dernier dimanche. Hein. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, comme le jour se lève vers 4h30, 5h en Israël. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Je veux insister sur le fait, frères et sœurs, que la communion fraternelle, notre attitude de cœur vis-à-vis de la communion fraternelle, vis-à-vis de l'Église, c'est une sécurité. Je réinsiste tout de suite dans ce que j'ai dit dans l'introduction, il persévérait dans l'original, c'est réellement un investissement personnel. Il y a une dimension de cœur, il y a un investissement du cœur dans ce moment, dans cette communion, dans cette réunion. On a dans Acte 20 ici cet exemple, les disciples sont rassemblés. Ils sont rassemblés autour de la parole. Paul les enseigne. Les disciples étant rassemblés, il y a donc l'Église. On sait pertinemment que les disciples, c'est l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ils étaient dans une chambre haute, mais l'Église, ce n'est pas la chambre haute. L'Église, ce sont les disciples, ce sont des personnes, souvenez-vous. Ils se sont rassemblés. Donc, l'Église est là. Il y a des lampes qui sont allumées, ce qui signifie qu'il y a de la lumière. La lumière est un symbole de vie. La lumière est un symbole de chaleur. La lumière est un symbole aussi de sécurité, de réconfort, ça rassure. C'est aussi la lumière un symbole de la présence de Dieu. Dieu est lumière. Il y a des lampes, la lumière est là, symbole de vie, symbole de présence de Dieu qui est là au milieu d'eux. Et puis il y a Eutychus. Eutychus, c'est celui qui est distant avec les autres. Eutychus, il est présent de corps, mais le cœur n'est pas là. Eutychus, il n'y a pas de ferveur. Oui, il est là, mais il n'est quand même pas là. On ne voit pas, on ne sent pas chez lui de communion fraternelle de qualité, comme je vous l'ai décrit, cet investissement personnel, parce qu'en réalité, il est en retrait. Eutychus, il est attentiste. Il est passif, il est oisif, il est distant, il est assis sur une fenêtre, il est en retrait, il est distant, il est distrait. Il est assis sur le bord de la fenêtre. C'est pas bizarre ça comme position ? C'est pas juste une histoire de fenêtre, hein. C'est une histoire de positionnement spirituel. Eutychus, c'est un homme qui a fait une chute vertigineuse. Parce qu'il n'a pas compris que ses frères étaient une sécurité pour lui. Il était plus malin que tout le monde. Il n'avait pas besoin d'eux. Eutychus, il dit, oui, mais moi, je suis là. Et Eutychus, il était assis au bord de la fenêtre. C'est quand même franchement bizarre. Alors, c'est sûr qu'une fenêtre, j'en conviens, hein, une fenêtre, c'est une super invention. Par la fenêtre, déjà, ça nous empêche d'être enfermés dans nos quatre murs. On a une vue sur l'extérieur, ça peut être une vision d'avenir. Dans le livre des rois, par exemple, on voit le roi Joas avec Élisée qui tire des flèches de délivrance en direction de son ennemi. Et donc, ça peut être une fenêtre d'avenir. La fenêtre, la lumière pénètre par la fenêtre. Vous pouvez aussi, là, elle ne s'ouvre pas, celle-là, mais vous ouvrez les fenêtres. Ah, vous faites rentrer l'air chaud quand il fait froid. Vous faites rentrer l'air frais quand il fait chaud. Quand vous avez cuisiné un peu de traviole et que ça a cramé, là, ouvre les fenêtres, air, air, vous ouvrez les fenêtres. L'oxygène est renouvelé, ça évacue les fumées, les odeurs, etc. Enfin, avec des fenêtres, la fenêtre, c'est une invention fantastique, on est d'accord. Ça sert à beaucoup de choses. Mais il y a un truc auquel ça ne sert absolument pas, c'est à s'asseoir. Même si les fenêtres ici s'ouvraient, j'ai jamais vu un chrétien dans aucune église arriver et s'asseoir sur le bord de la fenêtre. Alors pourquoi il est là ce texte ? Pour éviter à des chrétiens qui un jour auraient l'idée de s'asseoir au bord de la fenêtre ? Non, parce qu'il y a un problème de positionnement spirituel. La réalité, le problème de Eutychus, ce n'est pas un positionnement géographique, c'est un positionnement spirituel. Non, Eutychus, la fenêtre, déjà, ce n'est pas logique, ce n'est pas fait pour s'asseoir. Et en plus, quand on est au troisième étage, excusez-moi, il a quoi dans la tête, Eutychus ? Pour s'asseoir au bord d'une fenêtre au troisième étage. Quand vous pensez que même à vos enfants, j'espère que vous l'avez fait, Même mes enfants, quand j'habitais au premier étage, vous leur dites « Surtout, ne te penche pas par la fenêtre. Hein. C'est vraiment pas fait pour ça, une fenêtre. Et donc, c'est vraiment pas fait pour s'asseoir. Mais lui, au troisième étage, allons-y gaiement. Où avait-il la tête? Est-ce qu'il était stupide? Non. Il a un problème de positionnement spirituel. Il est à l'écart de ses frères. Il est mal positionné. C'est le gars qui pourra dire « Oui, ben moi, de toute façon, je suis venu à la réunion. » Il était là, mais il n'était pas là. Il est à l'écart, il est mal positionné par rapport à ses frères. Je vous ai mis présent de corps, mais pas de cœur. Il y a la distance de spirituelle, il est distrait, il est négligent. Il est là de corps, mais il n'est pas ensemble. On n'est pas un, Eutychus n'est pas un avec les autres. Il n'est pas avec, il n'y a pas le même cœur, le même sentiment. Vous comprenez, ça va, je me fais comprendre, c'est clair. Eutychus, il est mal positionné. Eutychus est dans un entre-deux. La réunion, elle est là. Puis en plus, c'est quand même, je veux dire, c'est pas Stéphane Brion, je veux dire, c'est Paul qui est en train de parler. Moi, Paul aussi, je veux bien l'écouter toute la journée et même jusqu'au lendemain matin. Je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est Paul qui est en train de parler, c'est Paul qui est en train d'enseigner des révélations extraordinaires que personne ne devait parler, prêcher comme lui. Il dit dans une de ses épîtres, au travers des quelques mots que je viens de vous donner, vous imaginez, vous faites une représentation du mystère que j'ai de l'intelligence, de la connaissance de Christ. Mais entendre Paul prêcher, ça devait être phénoménal. Si j'ai Paul qui vient à la réunion, je pense à tout, mais certainement pas à me mettre au fond et à m'asseoir au bord de la fenêtre du troisième étage. C'est pas possible. Alors Eutychus, il est dans, spirituellement, il est présent de corps, mais là, à l'intérieur, il est dans un entre-deux, assis au bord de la fenêtre. Ah, alors là, pour les distractions, la distance, il y a tout ce qu'il faut. Il a un œil dans l'église, mais il a un œil sur ce qui se passe dehors. Il a une oreille sur ce qui se dit dans l'église, il entend les prédications. Il entend les chants, il entend les prophéties, il entend les prières, puis il entend, il a une oreille aussi dehors, il entend ce qui se passe à l'extérieur. Il est partagé, il est distrait, il entend mais il n'écoute pas, et c'est ça sa faiblesse, c'est ça le problème. Et vous comprenez que du coup, j'insiste sur ce point, ma sécurité c'est pas d'être venu à la réunion. Ma sécurité, c'est mon attitude de cœur vis-à-vis de la communion fraternelle des frères et sœurs qui sont dans la réunion. C'est là qu'il y a une sécurité. S'il avait, peut-être Eutychus, hein, c'est peut-être le genre de personne qui vous dirait « Oui, d'accord, mais au moins, moi j'étais là. Puis moi j'ai quand même une communion avec Dieu. » Mais si Eutychus, il avait une vraie communion avec Dieu, il n'aurait pas entendu la voix du Saint-Esprit lui dire « Eutychus, rapproche-toi de tes frères. T'as besoin d'eux. T'es trop suffisant. T'es trop rancunier. Faut que t'arrêtes de regarder les autres de haut comme ça. Eutychus, rapproche-toi. Descends de ton perchoir. Arrête de penser que t'es capable et que tu vas gérer. Arrête de penser que ta petite communion la semaine avec moi, ça va tout régler. T'as besoin de tes frères. Eutychus, descends de ta fenêtre. Viens te mettre un avec tes frères. » Et ça, il n'a pas entendu la voix de Dieu lui dire ça, parce que le Saint-Esprit aurait certainement pu lui dire. Alors vous allez me dire, oui, mais il était là quand même, oui, et Paul l'a ramené vivant, oui, mais il était distant, il était en retrait, c'est une chute qui aurait pu être largement évitable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu chute. Ce n'est pas une chute du troisième étage seulement. La chute, elle est spirituelle. Il s'est endormi. Vous savez, quand on est partagé entre l'Église et le monde, quand on a une oreille dedans, une oreille dehors, un œil dedans, un œil dehors, c'est très inconfortable l'entre-deux, quand on n'est pas décidé, quand on est là mais pas là. Ah, qu'est-ce que c'est long! Il a prêché combien de temps encore le pasteur ce matin? Oh là là. Quand on n'est pas là, ah la louange c'était long ce matin, mais quand on n'est pas là, c'est long. Et vous voyez, il y a un truc qui est réglé comme du papier à musique. C'est que quand on est dans un entre-deux, c'est tellement inconfortable, on finit. C'est juste une histoire de temps, c'est tôt ou tard, on finit toujours par tomber. mais on tombe toujours du mauvais côté. C'est l'attraction spirituelle, c'est la pesanteur spirituelle, c'est l'attraction du péché. Ah non, il ne pouvait pas tomber dans l'église, non. Ah non, c'est pas comme Obélix, il ne tombe pas dans la marmite étant petit, ça ne marche pas. Ça n'existe pas, ça. On ne peut pas tomber dans l'église. On tombe à l'extérieur, mais dans l'église, on ne peut pas tomber. Il n'y avait aucune chance qu'il tombe du bon côté. Parce que le bon côté, le royaume de Dieu, j'y entre par la conviction de péché, j'y entre par la foi, j'y entre par la repentance, par la conversion, par la nouvelle naissance. Voilà comment j'y rentre. Et j'y rentre certainement pas parce que je suis tombé, j'étais fatigué, je suis tombé du bon côté, heureusement, merci Seigneur. Non, quand on tombe nécessairement, c'est la loi de l'attraction du péché et de la nature charnelle, on tombe toujours du mauvais côté. Combien, frères et sœurs, de bien-aimés dans nos églises en général, combien de chutes. Oui, derrière, il y aura des pasteurs pour te prendre dans ses bras. Il y aura des frères et sœurs pour t'accueillir dans la compassion, sans jugement. T'en trouveras toujours ici, ailleurs, bien sûr. Mais combien de chutes auraient pu être évitées? Combien de chutes auraient pu être évitées si les bien-aimés avaient une sérieuse communion avec Dieu et si on avait une sérieuse communion avec l'Église? Elle ne fait pas tout, l'Église, vous avez compris, je l'ai dit, mais c'est tellement important. Et Eutychus, il a négligé sa communion avec le corps, et c'était sa responsabilité. Je veux juste, pour terminer, vous parler juste une seconde de ça, ce dernier point. Tu peux mettre, j'ai perdu la main, Gérard, tu peux mettre la dernière image, merci beaucoup. La communion fraternelle, je termine avec ça, c'est une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité personnelle. Et je veux vraiment insister sur ce point sans méchanceté, parce qu'il y a des moments, elle a bon dos l'Église. On a trouvé une bonne excuse, on trouve de bonnes excuses avec les imperfections des frères, des sœurs, du pasteur, des uns, des autres. L'Église, elle a bon dos. Alors oui, l'Église doit être accueillante, l'Église est appelée à être bienveillante. Elle est attentive, je l'ai prêché. Inquiétez-vous les uns des autres. Et quand des bien-aimés ne sont plus présents, oui, on peut en parler au pasteur. Hein. Ce n'est pas de la délation, c'est parce qu'on est bienveillant, puis on s'inquiète, dans le bon sens du terme. Et puis, on peut aussi prendre son téléphone. Hein. Vous avez le droit d'appeler un frère, une sœur, de dire « Frère, sœur, je te vois pas en ce moment, je ne veux pas me m'immiscer, mais comment tu vas, mon frère? Comment tu vas, ma sœur? J'ai vraiment à cœur de prier pour toi, je prends tes nouvelles. » On le fait, c'est logique, c'est bienveillant. Et il faut bien le comprendre parce qu'on a le droit de s'en inquiéter, on a le droit d'en parler au pasteur, on a le droit d'en parler les uns avec les autres, c'est pas de la critique. Parce que tout simplement, un pasteur ou les gens qui sont là, ben, on est toujours accaparé par les présents. Et les absents, on les voit pas forcément tout de suite, comprenez? Il y a un turnover de présents. Et les présents, ben oui, ils sont toujours... Dans le bon sens du terme, ils ont des besoins, ils nous accaparent. Et je vais vous dire un secret, pardon. Non, le pasteur, il ne voit pas tout de suite. Il a une dimension humaine. Et c'est parfois au bout de plusieurs semaines qu'il se dit « Oh, je n'ai pas vu un tel, ok, je l'appelle. » Ou quelqu'un vient me voir, ou moi je vais voir quelqu'un, je dis « T'as des nouvelles d'un tel? Il faut qu'on prie pour un tel. » Parce que là, on ne le voit plus, on ne la voit plus. Et c'est, vous avez compris, c'est bienveillant. Mais on ne peut pas... Qu'est-ce que ça signifie quand vous pensez que personne, dans cette fameuse réunion, personne n'a été voir Eutychus pour lui dire hey, « Hé Eutychus, frère, s'il te plaît, descends de la fenêtre, là, tu nous fais un peu peur, rapproche-toi, tu sais Eutychus, on ne te voit pas trop ces derniers temps, oh Eutychus, rapproche-toi. » Même Paul n'a rien vu, Paul n'a rien dit. Mais vous savez, ça ne fait pas de Paul un mauvais pasteur, ça ne fait pas de l'Église une mauvaise Église, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, oui, il y a la responsabilité du troupeau, du berger, d'être attentif, d'être bienveillant, on est d'accord. Mais attention, c'est dans l'équilibre. Chaque brebis, chaque disciple est responsable de sa propre communion avec Dieu et de sa communion avec ce corps qui est l'Église. Chaque brebis, chaque disciple est responsable. Amen. Nous sommes responsables. L'Église ne fera pas tout pour toi. Le pasteur ne fera pas tout pour toi. Tu es responsable. Trouvez-moi un texte dans la Bible dans lequel le Seigneur ne place pas ses enfants devant leurs responsabilités. Avec amour, avec bienveillance, mais trouvez-moi un texte où le Seigneur ne place pas son peuple devant ses responsabilités. Alors, oui, bien sûr, il y a des brebis qui sont blessées, qui sont meurtries. C'est normal, il y a la restauration, elles ont souffert. On en prend soin. Ok, d'accord, pas de souci. Mais vous avez des brebis, et c'est là que vous avez compris mon propos. Vous avez des brebis qui sont comme des Eutychus, qui ne veulent pas, qui sont là et pas là. Et c'est à ces Eutychus que le Saint-Esprit s'adresse, qui leur dit, il faut que tu veilles sur la communion fraternelle. Oui, tous ces gens qui sont imparfaits, c'est mon peuple. Il faut que tu veilles sur cette communion fraternelle. Et si tu viens dans les réunions, c'est bien, mais Dieu, avec tout l'amour qu'il a, peut se permettre, à la hauteur de son amour, d'avoir aussi quelques exigences et de dire, non, je ne veux pas seulement que tu viennes pointer. Je voudrais vraiment que tu investisses ton cœur. Je voudrais que tu investisses ta qualité d'engagement dans cette communion avec ses frères et sœurs. Parce que c'est moi, c'est Jésus, c'est qui je suis. C'est comme ça que je me reconnais, c'est comme ça que je te bénirai. Eutychus, au bord de la fenêtre, au troisième étage, je vous demande pardon. Ce n'est pas la faute de l'Église. Pardon. Ce n'est pas la faute des pasteurs. Des fois, c'est la faute des pasteurs, mais pas là. Ce n'est pas la faute de l'Église, ce n'est pas la faute des ministères ou des anciens, c'est la faute de Eutychus. Personne n'a vu qu'il était à distance, même Paul ni l'Église, personne n'a rien dit. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que Paul aussi avait une dimension humaine. Ça veut dire que Paul, le Seigneur ne lui montrait pas tout non plus, parce que la brebis est responsable. Ça veut dire aussi que l'Église qui a souvent bon dos, non, je suis désolé, je me fais aussi, je sais parler à l'Église quand il le faut et la placer devant ses responsabilités, mais il y a des moments, l'Église, ben, elle a besoin qu'on la défende un peu aussi. Non, l'Église, parfois, elle a vraiment bon dos et elle y était pour rien. Eutychus, qu'est-ce que tu fais assis au bord de la fenêtre ? Même si tu étais dans la réunion, qu'est-ce que tu faisais en train de ruminer tes pensées ? Tu n'étais absolument pas là. Tu es reparti exactement comme tu es venu. Il y avait de la lumière. Eutychus, pardon, elle est où ta lumière à toi ? Eutychus, elle est où ta piété à toi ? Eutychus, elle est où ton unité à toi ? Eutychus, depuis le temps qu'on t'enseigne, tu as Paul comme enseignant, la seule idée que tu as eue, c'est de t'asseoir sur la fenêtre. Et voyez, bien-aimé, dans beaucoup d'églises, là, je parle vraiment, c'est général, c'est partout. Dans les églises, tellement de gens entendent, mais n'écoutent pas. Tellement de gens sont présents de corps, malheureusement pas de cœur. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Il a chuté, une chute qui aurait pu être fatale. Heureusement que par la grâce de Dieu, verset 12, il a été ramené vivant. Paul dit, rassurez-vous, son âme est en lui, ça a été un grand sujet de joie. Et oui, comme quoi l'Église n'est pas toute mauvaise non plus, puisque l'Église s'est réjouie et elle a accueilli ce membre qui était responsable de sa propre chute. Il pensait, Eutychus, certainement, il pensait avoir le temps, il pensait qu'il savait gérer. Il se pensait suffisant, il n'avait pas besoin des autres. Il s'est contenté d'entendre. Parfois, j'insiste, pardon, on est là, mais on n'est pas pressé de se repentir. On n'est pas pressé de faire le point sur nous-mêmes. On n'est pas pressé de changer. On entend les messages, on collectionne les chants, les prières, les prophéties, les appels, et puis un jour, c'est la chute. Alors, merci Seigneur, il y a eu un Paul pour le prendre. Merci Seigneur, il y a eu la grâce de Dieu, mais une chute qui aurait été évitable. Une chute qui était évitable, mais une chute qui finalement était nécessaire. Parce que cette chute, elle a été révélatrice. Parce que Eutychus, comme tout le monde, il était très beau et très mignon. Mais la chute a été révélatrice. Les apparences étaient bien trompeuses. Il a fallu que la réalité de son cœur soit dévoilée. Et non. Et non. Et non. Désolé, tu n'avais pas la vie spirituelle que tu pensais avoir. Et non, tu n'étais pas aussi fort que tu le pensais. Et puis cette chute, elle a été formatrice. Il y a des chutes qui sont nécessaires. Elles sont révélatrices et elles sont formatrices. On n'oubliera jamais, bien aimé, que Dieu est omniscient, il sait tout. Et dans son omniscience, il est aussi prescient, il sait d'avance. Moi, je pense que, comme un jour le Seigneur a caché des choses à Élisée, différents hommes dans sa parole, Élisée était obligé de dire au sujet de cette femme, son âme était dans l'amertume, dans tel état. Le Seigneur ne me l'avait pas fait connaître. Je pense que là, le Seigneur n'a pas permis que Paul voie que. Il n'a pas permis que l'Église voie que. Non, parce qu'il fallait que Eutychus soit confronté à ses propres responsabilités. Il fallait cette chute nécessaire, cette chute révélatrice, cette chute qui allait permettre ensuite ses formateurs pour l'enseigner, pour le changer. Je pense que la bonne nouvelle dans tout ça, je crois, hein, je pense que dans toutes les réunions qu'on suivit, je pense que Eutychus ne s'est plus jamais assis au bord de la fenêtre. Si tes chutes t'apprennent quelque chose, on pourra dire que tes chutes auront été salutaires. On pourra dire qu'elles auront été formatrices. Et Eutychus, par expérience douloureuse, négative, mais par expérience nécessaire, a compris la nécessité d'être bien positionné avec Dieu et bien positionné avec ses frères, veiller à sa qualité de communion fraternelle. Voilà, bien aimé, acte 2, il persévérait, il s'investissait de cœur dans leur communion les uns envers les autres. C'est un double besoin, c'est une bénédiction à double sens, c'est une sécurité et c'est la responsabilité individuelle de chaque membre de l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se recueillir, on va prier. Si les musiciens veulent bien revenir, si les frères qui ont été désignés pour la scène veulent bien commencer aussi à s'approcher. Puis on va avoir aussi ce temps de célébration autour de la table et on va pouvoir encore bénir et célébrer le Seigneur. Nous voulons te remercier et te bénir, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci parce que, Seigneur, tu as, dans ta sagesse infinie, tu as voulu l'Église, non pas un lieu géographique quelconque, non pas, Seigneur, des rassemblements de personnes quelconques, mais tu as voulu, Seigneur, que les pierres vivantes, tu as voulu que les membres du corps, Seigneur, se rassemblent ensemble pour être un. Tu veux, Seigneur, non pas que nous soyons là simplement présents de corps, mais le cœur parfois tellement ailleurs, mais que nous ayons vraiment cet amour, pas seulement pour ton nom, mais aussi pour tous ceux qui t'aiment. Cet amour, cette passion, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, cette profonde conscience que nous sommes appelés à venir pour les rencontrer, pour les bénir, pour leur faire du bien, parce que c'est là qu'il y aura une bénédiction particulière. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre l'Église de façon consommatrice. Aide-nous à ne pas vivre l'Église de façon individuelle, individualiste ou égocentrique, Seigneur, mais à vraiment centrer sur toi et centrer sur nos frères et sœurs et à vraiment nous investir les uns avec les autres dans cette belle communion. Apprends-nous, pas seulement l'assiduité, la constance, la régularité, apprends-nous aussi, Seigneur, l'engagement personnel. Apprends-nous l'investissement de cœur. Apprends-nous ton amour. Apprends-nous à aimer comme tu aimes nos frères. Apprends-nous à être passionnés comme tu es passionné. Apprends-nous à nous donner comme tu te donnes. Apprends-nous à servir et non pas à nous servir. Seigneur, parce que c'est là que tu nous attends. Et c'est là que tu vas enrichir et bénir au-delà de tout ce que nous pouvons penser. À ton nom soit la gloire. Merci, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. On chante ce chant ensemble. C'est par la grâce que nous venons devant toi, Seigneur. Et puis ensuite, on écoutera un texte de la parole de Dieu. Merci.
C'est par la grâce que nous venons. comptais tous nos péchés qui vivraient. Mais nous entrons purifiés par le sang de C'est par la soif que nous...